On va faire un petit peu la suite qu'on a vue la semaine dernière. On avait parlé de la vigne la semaine dernière. Et on va continuer cette semaine. On avait vu Ésaïe chapitre 5. Alors Ésaïe chapitre 5, c'est avant Ésaïe chapitre 6. Alors Ésaïe chapitre 6, ce sera Bob qui va apporter ce message la semaine prochaine. Et il me tarde vraiment d'y être. Mais là, on va pousser un petit peu. On avait vu la vigne, on avait vu l'importance de porter du fruit. Et là, cette semaine, on va parler des vignerons, puisque dans les paraboles, Jésus parle beaucoup aussi des vignerons. Et alors, on va retrouver les paraboles de Jésus. Je vais demander un petit peu la contribution des enfants ce matin. Alors, quel est votre fruit préféré? Qui c'est qui a un fruit qu'il aime bien? Ouais, Mathieu. La figue. Et toi, Thomas? La pomme. Où est-ce qu'on trouve les figues?
Sur des figuiers.
Sur des étals au supermarché. C'est vrai? Non, mais on les trouve en premier sur les figuiers et les pommes. Sur les pommiers, voilà. Alors, vous avez sans doute tous un fruit que vous aimez particulièrement. Et Dieu aussi, pour nous faire comprendre son cœur et ce qu'il aime, il nous donne des images. Et Dieu aussi, il y a un fruit qu'il aime. Il y a un fruit qu'il aime, qu'il recherche par-dessus tout. Hein. Et ce fruit, il ne se trouve pas sur un pommier ni sur un figuier. Il se trouve où? Il se trouve là, dans chacun d'entre nous. C'est ce fruit-là qui l'intéresse. Hein. C'est nous qui produisons le fruit que Dieu recherche et qu'il aime. Alors, c'est intéressant, hein? On est engagé là-dedans et on a vraiment la possibilité de donner de la joie au Seigneur. Alors, dans son enseignement, Paul en parle beaucoup de ce fruit. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, il appelle le fruit de l'Esprit. Alors, ça touche beaucoup le caractère dans cet enseignement-là. Est-ce que on va faire travailler les grands maintenant, voir s'ils connaissent un petit peu leur Bible? Galates chapitre 5, alors est-ce qu'on peut citer ensemble quelques fruits de l'esprit qui sont nommés là? Il y en a 9, est-ce que ça vous dit quelque chose, les fruits de l'esprit?
L'amour.
La paix.
La maîtrise de soi.
La maîtrise de soi. La douceur. La gentillesse, ce mot il n'existe pas, mais il pourrait y être dans la Bible, c'est vraiment un mot biblique. La bienveillance, ils appellent ça. Ou la bonté, la joie,
la patience,
la bénédiction, c'est lui qui la donne, ça c'est difficile à nous, mais il y a les œuvres pour nous, on va le voir après. Il y a la paix aussi, et je crois qu'on les a tous dit, et la foi, la fidélité. Il en cite 9. Et ça c'est le changement que l'Esprit Saint va opérer en nous, qui sont des fruits agréables à Dieu. Et puis, il y a également, donc, les œuvres. Paul en parle aussi. Dans l'Épître de Tite, chapitre 3, verset 14, on avait vu ce passage au printemps. Il faut que les nôtres, les chrétiens donc, aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc, la production de fruits, c'est aussi la production de bonnes œuvres. Et dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 10, là c'est vraiment un enseignement dogmatique et le cœur de Paul qui s'exprime. Paul dit qu'il ne cesse de prier Dieu pour vous, pour nous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, la volonté de Dieu, en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Voilà les fruits que Dieu cherche et qu'on peut porter. Mais on est aussi capable de porter d'autres fruits que Dieu ne cherche pas du tout. Et on appelle ça les fruits de la chair ou de notre nature. Hein. Alors, bon là on ne va pas les citer, il y en a 15. il y en a, je ne vais pas les citer, je vais dire quelques-uns, bon, la colère, la jalousie, les rivalités, les divisions, la haine, la magie, l'idolâtrie, la débauche, les excès de table. Et puis, la liste de 15 n'est pas finie parce que l'apôtre rajoute « et les choses semblables ». Et les choses semblables. Et nous sommes aussi capables de faire des mauvaises choses, des mauvaises actions. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, en fait, ça nous révèle l'état de notre cœur. Et c'est très intéressant de le voir comme ça. Et on a vu la semaine dernière que les fruits que Dieu attendait dans Ésaïe chapitre 5 de la vigne, et les fruits n'étaient pas bons. Ce n'était pas ce que le Seigneur espérait trouver. Et ce n'était pas de sa faute. Alors que faire? Eh bien, le Seigneur est là. Et donc dans la Bible, on a vu le peuple est comparé à une vigne que Dieu soigne et chérit. Et cette vigne doit porter des raisins. Et donc, et pour faire cela aussi, il envoie des vignerons. Il envoie des vignerons dans la vigne. Et c'est les vignerons dont on va s'intéresser. Hein, le travail des vignerons ce matin. Et on va voir trois paraboles de Jésus. Et dans trois de ces paraboles, dans chacune de ces paraboles, Jésus annonce un grand bouleversement. Des choses vont changer. Alors, on va lire la première parabole. Moi, je l'ai appelé le salaire des vignerons. On la trouve au Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Donc, je vous laisse chercher dans vos Bibles. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Alors, la journée de travail dans l'Orient, avant, ça commençait à 6 heures du matin, ça finissait à 6 heures du soir. Et on travaillait non pas 7 heures ni 8 heures, mais 12 heures par jour. Il y avait 12 heures de travail. Bien sûr, il y avait une pause. Il y avait des pauses pour se ravitailler et pour prendre un peu de repos. Mais on travaillait pendant 12 heures. Et on commençait à 6 heures du matin. Et le salaire habituel d'une journée de travail, c'était un denier ou un drachme, une pièce d'argent. Et donc, ça, c'était le salaire normal. Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Le royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux pour un salaire d'une pièce par jour et les envoya dans sa vigne. Donc ça, c'est à 6 heures du matin. Il sortit vers 9 heures du matin et il en vit d'autres qui étaient sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il trouve des gens et il les envoie vers sa vigne. Il sortit en vain à 5 heures de l'après-midi. C'est-à-dire, c'est juste une heure avant la fin de la journée. Et il en trouve d'autres qui sont là. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensèrent recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. À la recevant, ils murmuraient contre le propriétaire en disant « Ces derniers ont travaillé qu'une heure et tu les traites comme nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te vient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux avec mon bien? Ou alors, Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Et Jésus conclut : Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Alors, cette parabole, Jésus l'a donnée quand il était sur le chemin de Jérusalem. Et c'est donc à propos des récompenses, hein, quand il reviendra régner dans son règne. On va voir ça dans une minute. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette parabole ? Moi, j'ai compris que la vigne avait besoin du soin et le propriétaire a besoin de beaucoup d'ouvriers pour sa vigne. Il sort toutes les 3 heures pour chercher les ouvriers. Et toutes les personnes qu'il trouve, il les embauche. À la vigne du Seigneur, il y a beaucoup de travail. À la vigne du Seigneur, on recrute. J'ai remarqué aussi que le travail de la vigne est difficile. Au verset 12, on voit que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, et le travail est pénible. Je pense que ce devait être à ce moment-là le travail pour sarcler, pour enlever les mauvaises herbes qui poussaient dans la vigne. Est-ce que vous avez déjà fait ça, de prendre votre sarclette et d'enlever les mauvaises herbes pour que les herbes ne prennent pas les ressources de la vigne? C'est un travail difficile. À la vigne du Seigneur, le travail n'est pas facile. À la vigne du Seigneur, on recrute. À la vigne du Seigneur, le travail n'est pas facile. Le propriétaire a le souci des personnes qui sont là sans rien faire. Il parle bien aussi, on voit qu'il parle bien à ses ouvriers. Il dit « mon ami ». Il paye un salaire qui est juste également, même au dernier, celui qui est arrivé, ceux qui sont arrivés en dernier dans la journée. Et donc on voit qu'il est très généreux. Et ceux qui travaillent 1 heure ou ceux qui travaillent 11 heures reçoivent le même salaire. Et là, je comprends que le Seigneur est bon et qu'il aime les ouvriers. Il les prend en considération. Parlons un petit peu du salaire. Les ouvriers du propriétaire reçoivent de l'argent. Est-ce que si on travaille pour le Seigneur, on va toucher de l'argent ? Ah ben là, le contexte immédiat de cette parabole nous renseigne que non. Par cette parabole, Jésus répond à Pierre qui se demandait « Mais nous qui t'avons suivi, qu'est-ce qui va arriver de nous ?» Jésus dit qu'ils seront sur 12 trônes et qu'ils jugeront les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire une position privilégiée. Et c'est vrai que par rapport à l'histoire du peuple d'Israël, vraiment, ils vont arriver, les disciples, tout à fait à la fin, à la dernière heure, hein, les apôtres de Jésus. Ils arrivent au dernier moment. Le temps du peuple d'Israël va être mis entre parenthèses pour longtemps, pendant la période de l'Église. Et donc, pourtant, les apôtres de Jésus vont avoir une place privilégiée. Et donc, le salaire ici n'est pas un salaire d'argent. Ce sont des récompenses qui seront données quand Jésus reviendra seulement. Le jour où le Seigneur reviendra. Et je pense que ça met la met en garde de ne pas être jaloux, que les ouvriers ne soient pas jaloux entre eux, de se mesurer les uns les autres, la façon dont ils ont travaillé, la façon dont ils ont peiné. Voilà ce qui concerne le salaire. Alors, j'ai besoin de votre aide maintenant. Pourquoi il y a des ouvriers qui sont là à 6 heures le matin et pourquoi il y en a d'autres qui arrivent si tard, d'après vous ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a pu se produire ? Est-ce que vous avez quelques idées ? Pourquoi il y en a qui arrivent à toutes les heures, des ouvriers ? D'après vous, les enfants ? Se sont fait renvoyer d'ailleurs. Ouais, possible. Ils ont commencé une journée, puis c'était finalement qu'une demi-journée de travail. Et alors, ils étaient de nouveau disponibles à midi. C'est possible. Bon, peut-être ils sont restés au lit.
Ils étaient avec leur famille.
Oui. Ou peut-être ils étaient avec leur famille, il fallait s'occuper des enfants, tout ça. Il y avait des problèmes à la maison, ils n'ont pas pu se libérer à 6 heures du matin. C'est possible. Peut-être ils ne sont pas en bonne santé pour travailler à 6 heures du matin. Peut-être qu'ils peuvent faire qu'une demi-journée de travail. C'est possible aussi. Le Seigneur ne le dit pas et ne le précise pas. Mais il y a une chose, il y a un trait commun entre tous. C'est que tous souhaitent être embauchés. Tous souhaitent être embauchés dans la vigne du Seigneur. Hein. Et tous vont trouver un travail. Hein. Ça, c'est le point commun qu'il y a entre chacun. Alors, regardons maintenant la seconde parabole. Tournez quelques pages, Matthieu chapitre 21. Versets 28 à 32. Donc cette parabole est donnée un petit peu plus tard, quand Jésus est rentré dans le temple de Jérusalem. Il est venu, ça a été la fête quand il est rentré à Jérusalem, il était sur le petit âne. Et là, il s'est confronté, lui qui était arrivé comme le roi, le Messie promis, le fils de David, il s'est confronté au chef religieux qui était en place. Et là, ça a chauffé hein, pendant toute la semaine avec eux. C'était des confrontations. Hein, on a vu ça au printemps dernier. C'était pas facile. Alors, c'est dans ce contexte-là hein, que cette parabole est donnée. Alors, Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Et donc, comme d'habitude, à travers la parabole, Jésus veut parler et veut se faire comprendre facilement. Que pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et son enfant répond, « Je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et ce fils répondit, « Oui, je veux bien. »« Je veux bien, Seigneur. » À ce moment-là, on avait un grand respect dans la façon dont on devait s'exprimer devant le père de famille. « Mais il n'y en a pas. »« Oui, je veux, mais il n'y en a pas. » »« Lequel des deux fils a fait la volonté de son père ?» Et ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts, les prostituées, elles vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste, est venu à vous dans la voie de la justice. Vous n'avez pas cru en lui. Mais en revanche, les collecteurs d'impôts, les prostituées, ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. » Alors j'ai appelé cette parabole « Travailler pour papa ». Alors ici, ce ne sont pas les vignerons qui sont des salariés. Les vignerons ne sont pas salariés. Les vignerons, ce sont les enfants même du propriétaire qui vont travailler à la vigne. Quand je vous avais parlé de mon grand-père qui avait une vigne, et c'est vrai que il nous demandait à nous, ses petits-enfants, de venir nous l'accompagner pour travailler à la vigne. Et c'était pas le travail qui nous intéressait vraiment. Et on faisait tout ce qu'on pouvait possible pour éviter d'aller à la vigne. Toutes sortes de prétextes on cherchait. Le travail de la vigne était, il y avait deux grands travaux à faire. C'était le travail de la taille de la vigne au printemps, avant que la sève ne monte, à la fin de l'hiver, il fallait tailler. Et puis là, après, il faut ramasser tous les serments, il faut faire des fagots. Ramasser le serment, faire des fagots, c'est à la portée des enfants. C'est pas un travail qui demande une grande expertise. Il avait également le labour, il fallait labourer la vigne. Ça penchait comme ça, et passer entre chaque cep. Ça, c'était un travail vraiment, un travail d'homme. Mais ici, il semble que ce maître de maison s'adresse à des fils qui sont déjà adultes. Hein. Alors, j'ai une question. Les salariés, ils travaillent pour un salaire. Hein? Mais pour quelle raison un fils travaille-t-il pour son père? Est-ce que vous avez des idées là? Pour quelle raison un fils travaille-t-il pour son père? Pour lui faire plaisir. Ouais. Pour lui faire plaisir. C'est la plus belle des motivations.
Hmm?
Pour l'aider, oui, parce que il y a un travail important à faire à la vigne. Le travail est là, il faut le faire. Ben, je vais l'aider. Hein? Je vais l'aider. Moi aussi, je vais participer. Il y a une autre raison toute simple, c'est par obéissance. Mon père me dit de faire ça, je le fais parce qu'il me le demande, tout simplement. Par obéissance. Et pas pour un salaire. Il y a aussi un intérêt commun avec le père. Puisque la vigne, si c'est la propriété du père, ce sera un jour aussi la propriété des enfants. Et donc c'est un bien commun de la famille et il s'agit de s'en occuper. Donc il y a un intérêt commun aussi. Lorsqu'on est grand, lorsqu'on est adulte, ces choses-là deviennent importantes. Et on les comprend. Alors, j'ai une autre question. Les deux fils n'ont pas été travailler à la vigne au début. Pour quelle raison il y en a un qui a dit non, j'y veux pas, et l'autre a dit j'y vais et n'y a pas été. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces deux fils n'ont pas été travaillés dans la vigne? Est-ce que vous avez des explications? Hein? Qu'est-ce qui pouvait les retenir de le faire?
Ils n'ont pas de salaire.
Ils n'ont rien gagné. C'est pas intéressant. Hein? Si vous connaissez Nicky Junior, il fonctionnait un petit peu comme ça. Quand il y avait un salaire derrière, là, il était motivé. Quand il s'agit de gagner quelques sous. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme raison? Ouais, passer du bon temps. Ben, il y a des jeux à faire, il y a les copains, il y a tout ça. Mais c'est beaucoup plus intéressant que d'aller sarcler la vigne. Hein? Ouais. Et il y avait une autre raison, je pense, pour laquelle les enfants n'y ont pas été, c'est qu'ils étaient libres d'aller ou de ne pas aller. Peut-être qu'ils étaient plus grands, mais ils avaient la liberté de dire oui, de dire non. Et ils ont dit oui, ils ont dit non, mais après, il y avait la question d'aller ou de ne pas aller. Hein? Dieu ne les a pas... Le Père ne les a pas, dans cette parabole, ne les a pas châtiés, ne les a pas punis, parce qu'ils n'ont pas été. Ils étaient libres de le faire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, que représentent les personnages de la parabole? Là, il me semble que c'est un petit peu plus compliqué que celle d'avant. Alors, il y a ceux qui disent oui et qui font pas. C'est plutôt les religieux qui sont obéissants, mais obéissants en façade. Oui, 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 oui. Mais ils font pas derrière, hein, plutôt le peuple, la partie du peuple qui était religieux. Et puis ceux qui disent non, c'est plutôt les rebelles, hein, ceux qui sont rebelles à Dieu. Et là, il est fait mention des collecteurs d'impôts, des prostituées. Ils ont dit non, mais après ils disent oui. Alors aller à la vigne, c'est quoi dans cette parabole? Ben Jésus dit quelque chose. Hein. La question pour eux. C'était est-ce qu'ils allaient croire dans Jean ou ne pas croire en Jean. Et en fait, ceux qui ont cru, ce sont les irreligieux, ceux qui étaient les rebelles parmi le peuple, qui ont cru à Dieu. Et en voyant l'exemple de leurs frères qui ont cru que Jean était un prophète envoyé par Dieu, qui ont écouté, qui se sont repentis de leurs fautes, qui ont été baptisés dans le Jourdain, et bien à côté de ça, il y avait les religieux qui, eux, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas cru dans Jean, et ils n'ont pas fait ce que Jean attendait d'eux, ce que Dieu attendait d'eux. Donc, il y a un travail important à faire à la vigne, et ce travail, c'est de croire. Dieu attend que l'on croit. Il a dit l'œuvre de Dieu, Jésus a dit l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils. Hein? Et croire dans, il fait référence à Jean-Baptiste, et vous savez que pour Jean-Baptiste, la repentance, il y avait des fruits, il y avait quelque chose qui se passait dans la vie des gens. C'était pas seulement faire semblant, avoir des paroles, mais c'était des actes et un changement d'attitude qui devait apparaître dans la vie de ces gens. On pourrait lire ça en chambre, ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12, où les gens qui venaient faire pour l'apparence, Jean-Baptiste les appelait race de vipères, produisaient des fruits dignes de la repentance. De ces pierres même, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et donc, Dieu laisse libre. Il n'a pas forcé ses enfants dans la parabole. Et on peut imaginer, comme ça a été souligné, que Dieu est content que l'on fasse sa volonté. Nous repentir, croire en Jésus, porter du fruit, voilà un petit peu le travail. Et ici, il s'agit d'un travail personnel, d'un travail sur nous-mêmes, d'un travail dans notre cœur pour porter du fruit. C'est pas aller travailler pour les autres, mais c'est de faire un travail et de travailler pour soi-même et de veiller soi-même à ce qu'on porte du fruit. Et donc, il y en a qui vont le faire, qui vont croire, qui vont avoir une obéissance à la foi, qui va suivre la foi, et d'autres qui ne vont pas le faire. Dernière parabole. Matthieu chapitre 21, 33 à 48, ça c'est les méchants vignerons. Écoutez une autre parabole. C'est juste le texte qui suit. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir, construisit une tour, et il alloua des vignerons et partit en voyage. Le début, comme le texte d'Ésaïe qu'on a vu, et là c'est un peu différent maintenant. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en se disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils s'emparèrent de lui et le jetèrent hors de la vigne et ils le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la maison viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume des cieux vous sera enlevé, sera donné à un peuple qui en produira des fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur lequel elle sera tombée sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchèrent à l'arrêter, mais ils redoutaient la réaction de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Alors dans cette parabole, c'est pas difficile de comprendre qui sont les personnages. Le maître de la maison, le maître de la vigne, c'est Dieu. Et la vigne, c'est le peuple de Dieu. Et les vignerons, ce sont les responsables du temple, les anciens du peuple, les principaux prêtres, qui dominent et qui exploitent le peuple à leur profit. Les envoyés qui viennent réclamer la part de la vendange sont les prophètes. Le fils du maître de maison, c'est Jésus, qui sera mis à mort. Et les nouveaux vignerons à qui seront confiés la vigne, on le sait, c'est l'Église. Dieu a été très patient envers les responsables du peuple, mais Jésus annonce un grand changement qui va avoir lieu. Alors on peut dire que cette parabole parle d'un événement qui est passé, qui s'est passé maintenant, il y a bientôt 2000 ans. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même apprendre quelque chose pour notre époque maintenant ? Certes, Jésus a mis en place et a construit l'Église. Et il a mis quand même une organisation, une structure. Hein. On le voit dans l'Épître aux Éphésiens, Paul en parle. Il parle des apôtres, des prophètes. Il parle des évangélistes, des pasteurs et des docteurs qui sont là pour faire grandir l'Église, faire la coordination, l'enseignement de la parole. Et toutes ces personnes-là peuvent être vues comme des vignerons de nouveau peuple de Dieu. Si on regarde l'histoire de l'Église, ben on peut dire que souvent les responsables du peuple de Dieu se sont comportés un petit peu comme les Israélites, c'est-à-dire ils ont cherché à s'enrichir sur le dos du peuple. Même cela se produit encore aujourd'hui. Et non seulement cela, ils peuvent user facilement de leur position d'autorité en quelque sorte pour dominer au lieu de servir, hein, pour avoir une emprise sur le peuple de Dieu. Et moi-même, je me pose la question souvent, mais je me dis, mais pourquoi tu fais tout ce que tu fais ? Des fois, je me le dis quand ça va mal. D'autres fois, je devrais me le dire quand ça va bien. Et la réponse n'est pas facile à trouver. Est-ce que je fais les choses parce que ça me plaît de les faire ? Ou est-ce que je les fais vraiment pour le Seigneur ? Est-ce que j'essaye pas de retirer de tout ce travail quelque chose pour moi-même ? Ou est-ce que vraiment tout est pour le maître de la vigne ? Est-ce que tout est pour Dieu ? Alors, réponse n'est pas facile à donner. Comment se garder de devenir un méchant vigneron ? C'est quelque chose qui me semble être important. Alors, j'en parlais tout à l'heure, dans l'Église, Dieu a souhaité la collégialité. Et c'est vrai que la collégialité peut éviter bien des problèmes et bien des dérives à un homme, l'aider vraiment. On s'aide les uns les autres et on essaye comme ça de rechercher la sagesse de Dieu et d'arriver à conduire l'Église. On voit ici que quand même, dans notre parabole, il y avait collégialité en Israël. Le Sanhédrin était une institution collégiale et ils ont collégialement condamné Jésus à mort. Cela ne l'a pas mis en garde. Il y a, je crois, quelque chose qui est là pour garder les vignerons de devenir de méchants vignerons. C'est qu'il y aura un jour un jugement. Hein. Bon, j'ai noté aussi les avertissements. Dieu envoie des prophètes pour avertir. Et donc Dieu ne laisse pas les vignerons tout seuls comme ça. Il y a quelque chose que je pense qui peut les garder, c'est qu'ils doivent savoir qu'ils seront jugés au retour du maître. Le maître reviendra. Et ce jour-là, Jésus reviendra et il va demander des comptes à chacun. Et il a donné de nombreuses paraboles qui parlent de ce jour-là où Jésus va demander des comptes. Alors, faisons un bilan maintenant. Et on ne doit jamais perdre de vue, et c'est valable pour tout le monde dans l'Église, qu'un jour, Jésus va revenir et va nous demander des comptes. La crainte du Seigneur va garder le vigneron de devenir un mauvais vigneron. Pour conclure, résumons un petit peu tout ce qu'on a vu. Moi, j'ai noté sur ma feuille. Le Seigneur aime sa vigne, son peuple. Il fait tout ce qu'il faut pour qu'il porte de beaux fruits. avoir un bon cœur et faire de belles choses. Le Seigneur embauche des vignerons. Il a choisi d'associer les hommes au projet pour la récolte du fruit. Hein, les hommes sont associés. Et il y a beaucoup de travail à faire dans la vigne du Seigneur. Ceux qui s'y engagent sont assurés d'un salaire juste, voire d'une récompense même très généreuse. Mais il ne doit pas y avoir de jalousie entre les serviteurs du Seigneur. Un autre enseignement de la deuxième parabole, c'est que chacun doit veiller sur son propre fruit. On a tous une responsabilité personnelle. Et il y a un travail à faire sur soi-même et du fruit à produire. Que Dieu nous garde enfin de tomber aux mains de mauvais vignerons ou même d'être nous-mêmes de mauvais ouvriers. Ce serait vraiment triste et dommage. Et le dernier point, Dieu jugera toutes choses et il aura toujours le dernier mot. Alors je pense que cette pensée pour nous garder en paix dans toutes les circonstances dans lesquelles on peut passer. Dieu, de toute façon, il aura le dernier mot. Et il jugera tout cela. Seigneur, notre Père Céleste, merci pour la façon dont tu as décidé de nous associer à la production de vie qui soit agréable, qui soit parfumée pour toi, qui soit à la louange de ton nom et de ta gloire. Nous sommes partie prenante là-dedans tout entier. Nous devons veiller sur nous-mêmes pour produire des bons fruits. Et tu es celui qui veille sur nous, qui nous émonde, qui nous taille pour qu'on porte encore plus de fruits. Tu es celui aussi qui associe des hommes pour cela. Et Seigneur, merci parce que tu es bon et tu as dit, regardez les champs qui blanchissent, la moisson est là, il n'y a pas d'ouvriers priés. Le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et dans ta vigne, Seigneur, il y a toujours du travail à faire, il y a de la place pour tous. Il n'y a pas concurrence, tout le monde peut travailler. Celui qui arrive au début comme celui qui arrive à la fin. Seigneur, merci de ce que tu accueilles, tous ceux qui désirent travailler pour toi. Aide-nous à être de bons vignerons, si telle est la chose que tu prévois pour nous. Seigneur, garde-nous de l'orgueil, garde-nous de dominer sur nos frères et sur nos sœurs, sur ceux qui sont tout simplement plus petits que nous. On n'a pas besoin d'être grand pour avoir des responsabilités. Garde-nous, Seigneur, de chercher à nous enrichir, à y voir là une source de profit, mais que tout ce qu'il peut être fait soit pour toi et pour toi seul, Seigneur. Que nous ne détournions pas une partie pour mettre et pour nourrir notre propre gloire. Dans le nom de Jésus, Amen.